Le silence des petits papiers, chapitre 24. L'automne posait ses cristaux argentés sur les matins blêmes. Dans peu de temps, la saison céderait la place au général hiver. À la campagne subsistaient des traditions bien ancrées. La journée de l'alambic marquait l'apogée du jeu du chat et de la souris. Depuis quelques décennies, la corporation des bouilleurs de crue voyait disparaître un à un ses membres les plus éminents. Norbert était le dernier de la lignée qui avait conservé dans l'alcool tous les cornichons du canton. La distillation était sévèrement réglementée. Obtenir quelques litres supplémentaires de la part du spécialiste relevait de l'exploit. Les effluves, dégagées par le disciple de Denis Papin, ne laissaient aucun doute sur la finalité de sa présence dans cette ferme de l'avant-pays. L'homme était à l'image de son matériel ambulant, buriné par le temps et l'alcool. Sous sa casquette, vestige d'une autre époque, apparaissait un visage rougeau, à croire que sa profession s'inscrivait sur sa trône. C'était un connaisseur, le Norbert. Chaque cuvée se retrouvait dans son gosier, histoire de jauger la qualité. Il ne se trompait jamais. Rien qu'en voyant les fruits, il en déduisait le rendement, le goût et le degré. Il bichonnait la dernière machine en activité. Il avait fait promettre à son petit-fils d'ouvrir un musée à la gloire de ses grosses cocottes minutes. En ce jour si particulier, les initiés, les amis des initiés, les amis des initiés, bref, tout un aréopage de bons vivants, se pressait dans la cour de la ferme. Les gendarmes étaient aussi de la partie. Ces braves pandores appréciaient le divin breuvage distillé par notre bouilleur de crue. Ils savaient se faire discret pour profiter des largesses de la confrérie. Chacun leur réservait une petite bouteille, cela entretenait l'amitié. À cette occasion, au milieu des vapeurs de poire, de prune ou de raisin, les langues se déliaient. Le groupe, agglutiné autour du cylindre magique, s'informait des derniers potins. Il y avait régulièrement quelqu'un pour en sortir une savoureuse. Le verbe haut, l'œil malicieux, il se trouvait toujours un quidam plus intéressé que les autres. C'est d'ici que partaient parfois des rumeurs abracadabrantesques. Depuis qu'il ne travaillait plus, Jean-Christophe aimait se plonger dans cette atmosphère si particulière. Il lui semblait revivre ses jeunes années chez ses grands-parents. Ce monde rural, avec ses us et coutumes, le ravissait. Il prenait plaisir à raviver cette flamme qui brillait dans ses prunelles. Norbert ne mélangeait pas les fruits. Il commençait invariablement par distiller la poire. La Williams avait sa préférence. Il terminait par le raisin et le vrac. Lorsqu'il entamait la dernière chauffe, les jambons, pâtés et saucissons apparaissaient comme par enchantement. Le rouge était souvent remplacé par l'agneau du jour, personne n'y trouvant à redire. La marée chaussée, butin en main, s'en était allée sévir en d'autres lieux. Maintenant, les langues s'en donneraient à cœur joie. Jean-Christophe déploya les écoutilles lorsqu'il entendit un quidam parler des cadavres découverts en avant-pays et en Chartreuse. L'homme, passablement éméché, lâcha quelques bribes de phrases qui l'interpellèrent. Bien entendu, il ne réagit pas dans l'instant. Il connaissait l'orateur. Il le verrait à jeun, ce serait préférable. C'est souvent à l'occasion de rencontres de ce type que des révélations voient le jour. L'alcool levant bien des inhibitions. C'était la première fois que des propos échangés par des gens du village concernaient les articles de journaux reçus dans sa boîte à lettres. Jusqu'à présent, ses investigations s'orientaient vers les anciennes familles. Il était temps de se pencher davantage sur les coupures. Il décida de s'y consacrer entièrement. À 17 heures, tout ce beau monde se dispersa en jurant ses grands dieux de retrouver le Norbert l'année prochaine. Les véhicules, chargés de bonbonnes, dames Jeanne et bidons, se répandirent sur les routes. Les gendarmes, beaux joueurs, s'étaient attelés à d'autres tâches. Ils ne pouvaient verbaliser les contrevenants, qui étaient leurs amis et pourvoyeurs. Jean-Christophe s'en était allé avec 3 litres du précieux breuvage dans son coffre. Il préférait l'ambiance conviviale à la consommation du produit. Hélène craignait toujours ses escapades avec ses hommes aguerris à toutes les agapes. Mais il revenait avec de la poire qu'elle servait l'été avec de la glace à la vanille. Ça méritait bien quelques sacrifices. Malgré sa prudence, il avait bu plus que de raison. Sa tête lui donnait un avertissement. Il y avait tempête sous son crâne. Ça se bousculait en ordre dispersé. Il se fit discret en mettant 2 aspirines effervescentes dans un verre d'eau. Il prit même la peine de le laver et l'essuyer afin de ne pas éveiller les soupçons chez son épouse. Chaque année, il lui promettait d'être raisonnable. Chaque fois, il se faisait piéger par tous ses joyeux de rire. 4 articles correspondaient aux propos tenus par le compagnon de la dive bouteille. Jean-Christophe reprit les coupures et les posa devant lui sur une table basse. Il se trouvait mieux assis dans un fauteuil que dans son bureau. Il vérifia les dates figurant en bas de page. Malheureusement, un seul papier permettait d'identifier le jour de parution. Pour les autres, il lui faudrait s'y prendre autrement. L'homme qui s'exprimait sur les cadavres d'avant-pays et de Chartreuse prétendait que l'enfant découvert sous le pont François Ier, la jeune femme près de la pierre des Trépassés, celle derrière la cascade du cirque de Saint-Même, et l'homme en décomposition sur le monument Charles-Emmanuel II, que tous avaient un lien de parenté. Il restait à notre Sherlock Holmes à vérifier tout cela. Lorsqu'il relata sa journée de l'alambic à Hélène, il n'omit pas de lui raconter les menus détails. Il avait pris ses précautions. Il ne fronça pas le sourcil. Ça lui éviterait de se faire houspiller. Elle l'écouta attentivement et lui suggéra de s'adresser au service d'archives des journaux ayant traité de ses crimes. Il y avait pensé. Dès le lendemain, il contacterait le journal pour obtenir un rendez-vous. Hélène voulut lui faire un petit plaisir en guise de dessert. Quand elle lui proposa une glace arrosée de poire, ramenée de son escapade en compagnie de Norbert le distillateur, il ne put s'empêcher de froncer le sourcil. Heureusement pour lui, son tic passa inaperçu. Il refusa gentiment, prétextant un léger embarras digestif. Elle ne fut pas dupe. Elle se servit 2 boules à la vanille, qu'elle arrosa modérément de poire Williams. Il fit, contre mauvaise fortune, bon cœur. Il était heureux d'avoir fait plaisir à l'amour de sa vie.